Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Soccer Love.
Sometimes maybe good, sometimes maybe shit. No leave. Leave what? No leave. Leave what?
Ooh. Brésil ou pas, Ronaldinho, machin chouette.
Balotelli, Aguero.
Soccer love is amazing.
Bonsoir à tous et à toutes, chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue à Soccer Love, tous les vendredis soirs, 20h-21h30, avec nul autre que Wissam Bensta à la baguette, qui évidemment est là pour animer cette émission hebdomadaire, donc moi-même. Donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a énormément d'informations, on va beaucoup parler de la Coupe d'Afrique des Nations, parce qu'on est rendu au 8e de finale, avec des énormes surprises. On va en parler dans le segment le soccer fou, le foot fou. Évidemment, c'est à Soccer Love. Également, on va vous parler un peu de qu'est-ce qui se passe du côté du championnat anglais, parce que chaque semaine, je vous parle en détail d'un championnat, je vous donne le classement, les meilleurs buteurs, les matchs à venir, un peu mon ressenti par rapport à la saison à date. La semaine passée, on avait fait l'Italie. Ça m'évite tout simplement de rendre cette émission-là tout simplement une émission de statistiques, de classement, de buteurs. Chaque semaine, un championnat, la semaine dernière, l'Italie, cette semaine, l'Angleterre, la semaine prochaine, peut-être, ça sera la France, l'Allemagne, l'Espagne, Portugal, on ne le sait pas encore. Voilà. Également, on va voir les matchs à venir. On va faire un petit mea culpa sur notre ami Vinicius do Brasil, également. Et puis, on va vous donner quelques actualités à l'instant, juste pour vous dire que nos amis de Liverpool se sont qualifiés pour la finale de la Coupe de la Ligue anglaise contre Arsenal avec une victoire de 2-0. Donc la finale sera Liverpool-Chelsea. Ça se passera du côté de l'Angleterre de Londres à la fin février. Donc voilà, ça c'est une actualité. Et sinon, une autre actualité très importante, c'est-à-dire que dimanche en fait, les matchs de 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations commencent. Right, les 8e de finale, donc on va vous en parler tantôt là. Ça commence dimanche le 23, mais le 22, on a le tirage pour les matchs de barrage en Afrique. C'est-à-dire qu'on a 10 équipes séparées en deux groupes. Chaque groupe, par exemple, on a 5 équipes dans un groupe 1 contre 5 équipes dans un groupe 2. Il va y avoir un tirage, une équipe du groupe 1 contre une équipe du groupe 2. Ça va être un match aller-retour. Évidemment, l'équipe qui est dans le groupe 1 va recevoir le match retour à la maison. D'accord? Mais, ça va être très difficile parce que je vais vous donner les équipes qui sont dans le groupe 1 et dans le groupe 2. Donc, le tirage, encore une fois, ça va se passer le 22 janvier, demain. Du côté de Douala, qui est une grande ville au Cameroun, ça se passe au Cameroun, évidemment, parce que la Coupe d'Afrique des Nations est au Cameroun à l'heure actuelle. Le groupe 1. De toute façon, le groupe, il n'y a pas de secret. Là. Les 5 meilleures équipes africaines sont classées dans le groupe 1. Et les 5 moins bonnes, c'est-à-dire parmi les 10, évidemment, là, les 5 moins bien classées sont classées dans le groupe 2. Groupe 1. Sénégal, Maroc, Tunisie, Algérie, Nigeria. Donc ça, des 10, c'est les 5 meilleurs classés. Le Sénégal est 20e, Maroc 28e, Tunisie 29e, Algérie 32e, Nigeria 36e. Ça, c'est le classement mondial FIFA. Ce qui veut dire que, par exemple, le Sénégal est la meilleure équipe africaine classée. Elle est 20e au monde. Du côté du pot numéro 2, l'Égypte, du groupe numéro 2, pardon, l'Égypte, le Cameroun, le Ghana, le Mali, le Congo. Donc, par exemple, le Sénégal pourrait avoir un tirage qui l'oppose à l'Égypte, au Cameroun, au Ghana, au Mali ou au Congo. Mais je vous le dis tout de suite, des 10 équipes qui sont là en ce moment, là, elles sont presque toutes dangereuses. Ça ne sera pas un match facile. L'équipe la plus faible des 10, si vous me demandez mon avis, à l'heure actuelle, on parle bien sûr du Ghana. et de la Tunisie. Par rapport à leur Coupe d'Afrique des Nations à date, je vais en parler tout à l'heure. L'Algérie, je ne la mets même pas là-dedans, même si elle a connu une Coupe d'Afrique des Nations catastrophique, parce qu'ils ont eu un peu de malchance, parce qu'ils ont joué dans une température extrêmement chaude, d'ailleurs les autres aussi, mais eux également. Ils ont manqué énormément d'occasions et ils ont un effectif incroyable que sur deux matchs, dont un en Algérie, elle va être très difficile à battre. Donc voilà. Parmi ces équipes, évidemment, il y a des équipes qui se sont jamais qualifiées pour une Coupe du Monde de leur histoire. On parle évidemment du Mali 53e. Voilà, le Congo s'est déjà qualifié alors que ça s'appelait le Zaïre dans les années, je crois, 70, si je ne me trompe pas. Je crois que c'était durant la Coupe du Monde de 1970. Donc voilà, écoutez, donc ça c'est une belle petite introduction à l'émission. Maintenant, on va aller parler de notre ami Vinicius. C'est tout de suite à Soccer Love. Pour débuter l'émission, on va parler de notre ami Vinicius Junior. Écoutez, premièrement, je veux faire un mea culpa à Vinicius Junior. Parce que l'année dernière, à cette même émission-là, j'avais dit que je ne voulais plus jamais, au grand jamais, voir Vinicius Junior avec un maillot du Real Madrid. Et cette année, non seulement sur le terrain, il est bon. Benzema et lui s'entendent à merveille. Benzema n'a pas de mauvais mots pour Vinicius Junior. Et surtout, dans le jeu, Vinicius Junior est extrêmement efficace. C'est-à-dire que l'année dernière, en fait, Vinicius, je disais pas qu'il était pas bon, que ça n'était pas un bon joueur. Parce que, évidemment, qui suis-je pour critiquer si un joueur qui joue avec le Real Madrid est bon ou pas? Évidemment, ça, c'est des conneries. Parce qu'on sait évidemment que quand un club comme le Real Madrid te recrute, c'est que tu es un bon joueur. Après, ça se peut que tu ne te développes pas comme tu le devais, si tu es un joueur jeune. Mais par contre, tu es un bon joueur. Vinicius est un bon joueur et c'était un bon joueur l'année dernière quand je le critiquais. Le problème avec l'année dernière, c'est que Vinicius faisait tout le temps la même chose, c'est-à-dire qu'il essayait de déborder avec sa vitesse parce qu'il est très rapide. Il essayait de déjouer, mais une fois qu'il avait déjà réussi à éliminer un joueur, il essayait d'éliminer un deuxième, un troisième, puis après ça, de faire la passe quand vraiment c'était la dernière option possible. Alors que maintenant, ce qu'il fait, c'est que Vinicius utilise sa vitesse pour déborder, mais tout de suite, une fois qu'il y a une option de passe intelligente, il la fait et il la donne. Et c'est pour ça, en partie, que le Real Madrid connaît des succès énormes cette année en Liga. Évidemment, le Real Madrid est champion aussi de la finale de la Supercoupe espagnole. Ils ont battu l'Athletic Club de Bilbao 2-0 en finale. Ils avaient gagné 3-2 contre le FC Barcelone en demi-finale. Les deux matchs, d'ailleurs, étaient du côté de Riyad en Arabie Saoudite, qui est un endroit où est-ce que les finales de la Supercoupe espagnole se passent depuis quelques années. Parce qu'évidemment, bon, l'Arabie Saoudite paye beaucoup d'argent, puis on sait là-bas, les gens adorent le foot. Puis ben, la Ligue espagnole a pensé que c'était une bonne idée, évidemment, d'accepter l'argent puis d'aller jouer là-bas. On peut penser qu'est-ce qu'on veut, mais c'est sûr que, bon, pour les fans du Real Madrid, qui veulent voir leur club gagner un trophée, je parle des Espagnols, évidemment, parce que le Real Madrid est une équipe espagnole, c'est un peu ordinaire de ne pas avoir le match joué du côté de l'Espagne, mais en même temps, ça peut se défendre pour des raisons monétaires, mais bon, on sait que le foot, maintenant, marche beaucoup à l'argent, donc voilà. Et évidemment, dans ce match-là, le Real Madrid a bien joué. C'est-à-dire qu'ils ont gagné 2-0 au début de Luka Modric et Karim Benzema. Là, je m'écarte un peu là, du sujet principal, mais c'est ça. Donc, Vinicius n'a pas marqué ce match-là, mais il a quand même connu un bon match. Mais dans le match d'avant, évidemment, il avait marqué le premier but, le but du 1-0 contre le FC Barcelone. Donc, juste pour vous donner un exemple, là, cette année, Vinicius, sur le terrain, il est incroyable. Il est bon, tout le monde parle de lui. L'année dernière, on voyait des joueurs comme Modric, des joueurs comme Kroos, des joueurs comme Benzema lever les bras en guise de désespoir en se disant « Mais pourquoi est-ce que tu ne fais pas la passe? Pourquoi est-ce que tu te compliques la vie tout le temps? Joue en équipe! » Et cette année, Vinicius joue beaucoup plus en équipe que l'année dernière. Il est beaucoup moins individualiste. Peut-être, ça c'est une hypothèse là, que je donne tout comme ça, là. Peut-être qu'il n'était pas individualiste simplement par choix. Peut-être qu'il voulait faire ça pour vouloir gagner sa place puis prouver à l'entraîneur qu'il avait sa place. Parce que je pense pas que tu puisses volontairement à 20 ans, 21 ans, décider, toi, de snobber Kroos, Modric et Benzema.
Can't do it.
Right? Vinicius est quand même intelligent. Mais ça reste qu'au final, c'est ça que ça donnait l'année dernière, c'était une version très individualiste de Vinicius. Juste pour vous donner là, des chiffres de l'année dernière. L'année dernière, là, en 35 matchs, Vinicius, c'était 3 buts et 3 passes. En 35 matchs.
Can't do it.
3 buts, 3 passes.
Cannot play with it.
En 35 matchs. Cette année, en 20 matchs, avec le Real Madrid, 20 matchs joués, la plupart évidemment comme titulaire, 18 où est-ce qu'il a commencé, 12 buts marqués, 4 passes décisives. Ça veut dire qu'il a 16, si on compte les buts et les passes, là, ça lui fait 16 en 20 matchs. Ce qui est énorme. Parce que c'est pas, on parle pas ici des Oilers d'Edmonton et de Connor McDavid où est-ce qu'un point par match, là, c'est une blague pour lui. Là. On parle de soccer. Quelqu'un qui est décisif, que ce soit par les passes ou les buts, presque une fois par match, c'est énorme. C'est énorme. Et évidemment, il domine aussi la Liga. Il est juste derrière un certain Karim Benzema. Donc voilà, c'est le message en fait que j'avais adressé cette semaine à Vinicius, quoiqu'il ne m'écoute probablement pas. Mais s'il m'écoute, tudo bem, o Vinicius. O Vinicius do Brasil, estou aqui. Não se faque.
Sabe do que é?
Sherbrooke. 83 FM, là. Radio Université de Sherbrooke. Donc l'ami Vinicius, félicitations à lui. Évidemment, c'est pas un candidat pour le Ballon d'Or, c'est pas ça que je dis. Mais il est en très bonne voie de devenir un très, très, très grand joueur. Évidemment, je mets toujours Mbappé au-dessus, là. Mais Vinicius, c'est du lourd. C'est du lourd et un Vinicius en forme. Parce que c'est ça qui était frustrant avec lui l'année dernière, en fait, c'est qu'on le voyait. On voyait qu'il avait un potentiel. On voyait qu'il était capable de créer des choses intéressantes, que les défenseurs avaient peur de lui et de son déséquilibre. Mais le problème, c'est que ça finissait tout le temps avec un gros caca-culotte. Et cette année, ça n'est pas du caca-culotte. Cette année, c'est des caviar après caviar après caviar. Ah. Donc voilà, félicitations Vinicius, félicitations au Real Madrid évidemment qui est champion de la Supercoupe espagnole. Et d'ailleurs c'est un titre pour Ancelotti, qui est d'ailleurs l'entraîneur du Real Madrid. Là, ça faisait un petit bout qu'Ancelotti n'avait pas gagné un titre avec le Real de Madrid. Donc félicitations à lui. Voilà.
Cornetto e cappuccino, una zuppa e latta quantità. Soppina lava me, ma che tenga vere. Si può che si pupette, mi mangia come frugioi. Non me ne importa sì, na poche scoppie. Si che si pizza fritta, caramella sopra me. Ma guarda dietro, mi piace nel pulpetto, mi piace la cotoletta. E ci mangia di quattro, tenga fa me il son che sette. Come grida la bilancia quando a volte poi ci salto su. Ma vagananza pure si tenga panza, meglio non mi sostanza che stacchina come a te. Ma guarda dietro, mi piace nel pulpetto, mi piace la cotoletta. E ci mangia di quattro, tenga fammi il son che sette.
roulette, me viens à gondolette. Adieu, mania des quattes, d'enga va mes son guissette. Cousou les notes, où stade à gaza voste. Jamade me babeste, na maison reste ma poste.
Sa manière de gober à Takai, normalement, on va les voir vite.
Ma voilà, dit, ma viage n'est poulpette, ma viage à gondolette. Adieu, mania des quattes, d'enga, va mes songs et sept. Cousoule et note, Poustan à Gaza Voste. Dame de me va veste, na maison reste ma poste. Rodino, portami une pizza, ti allasi.
De retour à Soccer Love, c'était la chanson Ma quale dieta de Luca Il Sole di Notte. Ça, c'est la chanson, d'ailleurs, s'il y a un reportage sur Netflix là, qui parle de la victoire de l'Italie à l'Euro 2020. Et c'est très intéressant, on peut voir l'intérieur, le vestiaire, les joueurs. Si on voit par exemple que Lorenzo Insigne qui va signer à Toronto, là, que c'est pas mal un des leaders de cette équipe-là dans le vestiaire. Ça m'a beaucoup surpris, moi qui pensais que c'était Bonucci, Chiellini et tout ça. On les voit un peu moins, donc peut-être que c'est pas significatif ce documentaire-là. Mais Insigne, c'est vraiment celui qui met l'ambiance. Pas le leader, mais c'est celui qui met l'ambiance. C'est celui qui est là, qui taquine tout le monde. T'sais, c'est un joueur très charismatique. Donc c'est une très belle acquisition que le Toronto FC vient de faire. Et cette chanson-là, c'est la chanson que l'équipe italienne écoutait tout le temps. Et c'est ça qui a partagé dans le reportage. Et c'était très intéressant. Ma quale dieta, ça veut dire quelle diète? Ben, en voyant que le gars dans le vidéoclip, lui, il mange énormément, il mange sans retenue. Donc voilà, c'est pas mal ça. Écoutez, maintenant, c'est l'heure du moment fou à Soccer Love. Chaque semaine, j'essaie de vous trouver un moment fou, que ce soit une bonne, une mauvaise nouvelle ou quoi que ce soit. Et cette semaine, ben, on va en parler dans quelques secondes. Le moment fou, c'est tout de suite à Soccer Love. Donc, écoutez, le moment fou, je me rapproche du micro un peu, le moment fou de cette semaine, c'est l'équipe nationale du Ghana qui a participé à la Coupe d'Afrique des Nations et qui a un point en trois matchs qui retourne à la maison par la plus petite des portes après leur défaite de 3-2 contre les Comores. Les Comores qui viennent de gagner leur tout premier match. Leur tout premier match de l'histoire en phase finale de Coupe du Monde, et c'est contre le Ghana. Donc, c'est vraiment une grosse surprise parce qu'on se doutait quand même que le groupe était difficile. C'est un des plus difficiles parce qu'on a quand même le Maroc, le Gabon, le Ghana et les Comores. Mais les Comores terminent 3e du groupe avec 3 points. Et le Ghana 4e avec 1 point, Maroc 7 points et Gabon 5 points. En fait, le Ghana a perdu les deux matchs contre les Comores et le Maroc, qui a fait match nul contre le Gabon 1-1. D'ailleurs, contre le Gabon, il menait 1-0 là, et c'est dans la fin, il y a une petite... Il y a eu de la confusion, en fait. Le Ghana pensait que l'autre équipe allait sortir le ballon, qu'il allait redonner le ballon, puis finalement, le Gabon ne l'a pas fait. Mais bon, ça reste que le Ghana n'a pas gagné un seul match et a marqué quand même 3 buts en 3 matchs, qui est quand même bon. Mais malheureusement, c'est pas suffisant pour se qualifier pour la deuxième phase de la Coupe d'Afrique des Nations, parce qu'il y a des huitièmes de finale en plus, donc les meilleurs troisièmes pouvaient se qualifier très facilement là, pour... Avec une victoire, ils ont été probablement qualifiés pour un huitième de finale pour la Coupe d'Afrique des Nations. Et pourquoi je parle du Ghana comme équipe, comme que c'est une grosse surprise et que c'est le monde fou du soccer? Parce que le Ghana, je vais vous donner une petite historique, on va faire un peu d'histoire en même temps. Le Ghana, là, d'ailleurs, c'est, pour moi, la plus grande équipe africaine que j'ai vue de mes yeux à une Coupe du Monde. En fait, c'est pas compliqué. Les équipes africaines qui ont fait les quarts de finale, il y en a trois. Il y a le Cameroun 90 de Roger Milla. Ça, c'était un exploit parce que c'était la première fois qu'une équipe africaine allait aussi loin. Il y a eu le Sénégal de 2002. Ça aussi, ça a été énorme. Énorme. Ils ont battu la France, fait match avec le Danemark, avec l'Uruguay, ils ont battu la Suède, puis ensuite ils ont perdu contre la Turquie en prolongation avec un but de Ilan Mandziz. Et 2006, 2010, 2014, le Ghana, c'est pas très connu ça du monde du foot, on passe beaucoup à l'Afrique, Nigeria, Cameroun, etc., etc. Mais le Ghana est une équipe qui a une très belle histoire en Coupe du Monde. Parce qu'en 2006, elle a fait le huitième de finale. Parce qu'en 2010, elle a fait les quarts de finale. Et en 2014, elle s'est pas qualifiée, mais elle était quand même avec un groupe qui s'appelle Portugal, États-Unis, Allemagne. Et ils ont marqué deux buts. Ils menaient 2-1 contre l'Allemagne jusqu'à la 70e minute environ. L'Allemagne qui a gagné cette Coupe du Monde-là en 2014. Donc le Ghana a fait danser des gens pas à peu près. Et moi, c'est à partir de 2006. En 2006, le Ghana était avec l'Italie, la République tchèque et les États-Unis. C'était un groupe monstrueux. Ça, c'était la République tchèque là, de Jan Koller, de Milan Baroš, hein? De Ushfalushi, de Tomas Galasek, de Pavel Nedved, Ballon d'Or. C'était une équipe de République tchèque qui avait été en demi-finale de l'Euro 2004, où ce qui s'était fait sortir par la Grèce en prolongation, mais la Grèce, cette année, elle avait le vent dans les voiles. Le Ghana a perdu son premier match contre l'Italie 2-0. Ensuite, ils ont marché sur la République tchèque. Ils les ont dominés comme j'ai rarement vu une équipe africaine dominer une équipe européenne. 2-0, ça aurait pu finir 4-5-0. Carton rouge pour la République tchèque à la 65e minute, pardon, avec des buts de Asamoagian et Muntari. Ensuite, ils ont battu les États-Unis 2-1. Ils ont été dans un groupe incroyable et ils sont sortis de là, OK, avec 6 points devant la République tchèque, devant les États-Unis. Et évidemment, bon, contre le Brésil en 8e de finale, ben, ils se sont fait taper 3-0. Ronaldo, Adriano, Zé Roberto. On sait, le Brésil, quand ils jouent contre des équipes africaines, là, pour eux, c'est souvent facile. Je ne sais pas pourquoi. Mais les équipes africaines contre le Brésil, ils n'ont vraiment pas un bon, des bons résultats de confrontation. Ensuite, 2010, c'est là que ça devient, pour moi, la meilleure. Une des meilleures. On va rajouter Cameroun, Sénégal. Mais un des moments où j'ai le plus vibré dans le monde du foot, dans le monde du soccer, c'était en 2010. Afrique du Sud 2010, le Ghana est avec, entraîné par un Serbe d'ailleurs, Milovan Rejevac. Milovan Rejevac. Et en 2006, il était entraîné par un autre Serbe, Ratomir Djuskovic. Donc en 2010, par un Serbe, Milovan Rejevac. Ils étaient dans un groupe avec la Serbie, avec l'Australie et avec l'Allemagne. D'accord? Ils ont battu la Serbie 1-0 lors de leur premier match avec un but de Asamoagian à la 85e minute. Ils ont fait match nul avec l'Australie 1-1. Et ils ont perdu contre l'Allemagne 1-0 leur dernier match, un but de Ozil à la 60e minute. Huitième de finale, ils battent les États-Unis en prolongation 2-1. En quart de finale, c'est l'équipe africaine qui s'est rendue le plus loin de l'histoire de la Coupe du Monde. Parce que vous allez dire, oui, Cameroun-Sénégal, mais le Ghana s'est rendu en pénalty contre l'Uruguay, en quart de finale. Et avant de se rendre au pénalty, d'ailleurs, ils ont eu un pénalty à la fin du match. D'accord? À la 80, juste avant la fin de la prolongation, pour une main de Luis Suarez qui a arrêté le ballon de la main au lieu de la laisser rentrer. C'est de la grosse triche, mais bon, il a le droit de le faire, il y a un carton rouge direct. Asamoagian a raté le penalty et le Ghana n'a pas pu représenter l'Afrique pour la première fois de toute l'histoire du continent en demi-finale. Et comble de malheur, cette Coupe du Monde-là se passait justement en Afrique du Sud. Donc c'est pour ça que le Ghana, le fait qu'il ne soit pas capable de se qualifier pour, même pas se qualifier pour les huitièmes de finale et qui se termine dernier du groupe, pour moi, c'est complètement fou et je voulais partager ça avec vous. Évidemment, c'est une bonne introduction là, parce qu'on va vous présenter, on va vous parler de qu'est-ce qui se passe un peu dans la CAN. Là, on est déjà rendu au huitième de finale, voir quelles équipes sont arrivées, quelles équipes sont pas arrivées. Évidemment, on sait, la Tunisie a eu 12 cas de COVID, 12, donc c'est énorme. On va vous raconter qu'est-ce qui s'est passé avec ça. Hein? Je pense que ça vous intéresse peut-être. Et fait à noter sur le Ghana, by the way, beaucoup de gens l'ignorent. Beaucoup de gens en Afrique pensent évidemment à Roger Milla, parce que oui, c'est vrai, Roger Milla, c'est un excellent joueur, c'est une légende africaine. Mais le meilleur buteur africain de l'histoire de la Coupe du Monde, c'est Assamoah Gyan du Ghana, avec 6 buts en 3 Coupes du Monde. Ça lui donne une moyenne de 0.55 buts par match, ça veut dire qu'il marque un peu plus qu'à tous les deux matchs. Ronaldo, sa moyenne à lui, là, c'est 0.41. Luis Suarez, c'est 0.54. D'accord? Maradona, c'est 0.30. Bon, Maradona, c'est pas un attaquant, donc c'est pas pareil, là. En 3 Coupes du Monde. Right? Donc, ce joueur est une légende. Et c'est pas un joueur qui est connu de beaucoup de gens. Right? Parce que c'est pas un nom très flashy. Et surtout parce qu'en club, il a jamais eu des statistiques incroyables. Sauf quand il est allé du côté des Émirats Arabes Unis avec El Ain. Où est-ce qu'il a marqué 73 buts en 65 matchs et 22 buts en 18 matchs. Il faut le faire pareil, là. 73 buts en 65 matchs. Ça, c'est du Connor McDavid. Encore une fois, avec le Ghana, 51 buts en 109 matchs. Et pour ceux que ça intéresse, parce qu'on fait le moment fou, on fait un peu d'histoire comme ça pour vous éduquer un peu sur le monde du soccer. Le Ghana a quand même gagné la Coupe du Monde, la Coupe du Monde, I wish, parce qu'évidemment, il n'y a aucune équipe africaine qui a gagné la Coupe du Monde, ni asiatique, ni d'Amérique du Nord. C'est juste l'Europe et l'Amérique du Sud, en fait. Faut pas chercher très loin. Champion en 1963. Ça se passait au Ghana. Champion en 1965, côté de la Tunisie. Champion au Ghana en 1978. Et champion en 1982. Et ça se passait du côté de la Libye. Depuis, en 92, ils ont fait la finale. En 2010, ils ont perdu la finale. Right? Et en 2015 aussi, ils ont perdu la finale, évidemment. En 2010, ils l'ont perdu contre l'Égypte. L'Égypte qui est évidemment le roi de la Coupe d'Afrique des Nations sur le continent africain. Et en 2015, ça se passait du côté de la Guinée équatoriale, qui est le seul pays africain qui parle espagnol. Je ne sais pas si vous le saviez, là, mais vous le savez maintenant à Soccer Love, on apprend. Eh bien, ils ont perdu au pénalty contre la Côte d'Ivoire avec une séance de pénalty complètement folle. Là. Il y a eu presque 10 tireurs, en fait, qui ont tiré les pénaltys. Voilà. Voilà. Et évidemment, Assamoah Gyan n'était plus là. Donc, voilà, chers auditeurs, c'était pour vous parler un peu du Ghana et de ce monde complètement fou où est-ce qu'un club énorme, c'est-à-dire où est-ce qu'un pays énorme comme le Ghana ne peut même pas se qualifier. Ne peut même pas terminer troisième pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est un monde complètement fou, chers auditeurs, chers auditrices. Donc maintenant, on s'en va et on continue à... on poursuit avec la Coupe d'Afrique des Nations à Soccer Love. Donc maintenant, on va parler de la Coupe d'Afrique des Nations. Évidemment, je viens de vous parler d'un moment fou de l'histoire du foot avec le Ghana qui s'est même pas qualifié et qui a terminé bon dernier de son groupe avec le Maroc, le Gabon, les Comores. Dernier de ce groupe-là avec un point, tout simplement, un match nul contre le Gabon de 1-1, un match qui aurait dû gagner. Mais quand on regarde, les autres groupes, il y a également des surprises énormes. Le groupe A, on a le groupe du Cameroun, Burkina Faso, Cap-Vert et l'Éthiopie. Cap-Vert, d'ailleurs, qui est une nation qui parle portugais. Le Cameroun est premier. C'est le pays qui reçoit la Coupe d'Afrique des Nations avec 7 points. Deuxième, Burkina Faso, 4 points. Troisième, Cap-Vert, 4 points. Et dernier, Éthiopie avec 1 point. Donc, Cameroun et Burkina Faso qualifiés. Cap-Vert, très probablement qualifié pour les huitièmes de finale parce qu'ils ont 4 points pour un troisième, ce qui est quand même très bon comparé à d'autres groupes. Le groupe B, celui du Sénégal, une victoire, 2 matchs nuls, 1 but marqué en 3 matchs avec 0 but encaissé en 3 matchs, ce qui est excellent. Ça leur donne la tête de ce groupe-là avec 5 points. La Guinée, deuxième avec 4. Malawi, troisième avec 4 points. Malawi qui a quand même été chercher une victoire là, contre le Zimbabwe 2-1 lors de leur dernier match. Le groupe C, on a le Maroc, Gabon, Comores, Ghana, on vient d'en parler. Le groupe D, Nigeria premier, 3 matchs joués, 3 victoires. C'est la seule équipe qui a gagné tous ses matchs, donc félicitations à eux. Ils sont pas très loin d'ailleurs du Cameroun géographiquement, là, donc pour les fans, pour voyager au Cameroun, ça ne devrait pas être très compliqué. L'Égypte deuxième avec 6 points, donc 2 victoires contre le Soudan et la Guinée-Bissau, et Soudan et Guinée-Bissau 1-1 pour les deux équipes. Le groupe E, là il y a eu une surprise énorme, mesdames et messieurs, énorme. La surprise énorme, ça aurait pu être le monde fou du soccer, mais la surprise c'est que l'Algérie est dernière du groupe. Un groupe qui comprend, écoutez bien, là, écoutez bien, ouvrez vos oreilles. L'Algérie est dernière du groupe qui comprend la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale, qui est le seul pays africain qui parle espagnol, et la Sierra Leone. L'Algérie est derrière la Sierra Leone et derrière la Guinée équatoriale. 3 matchs joués, une défaite de 3-1 dans le dernier match contre la Côte d'Ivoire, une défaite de 1-0 contre la Guinée équatoriale, qui là a vraiment été un choc catastrophique, mais catastrophique. L'Algérie n'avait pas le droit de perdre ce match-là. Entre vous et moi, évidemment, la Guinée équatoriale a gagné, c'est bien. L'Algérie n'aurait pas dû perdre ce match-là, vu le jeu qu'il y a eu dans le match et vu les occasions qu'elle a eues. Et l'Algérie a fait match nul, 0-0 avec la Sierra Leone. Un but marqué en 3 matchs. 5 buts accordés en 3 matchs, qui en fait une des pires défenses de cette Coupe d'Afrique des Nations, mesdames et messieurs. Une des pires. Et surtout, il faut rappeler une chose, c'est que l'Algérie est championne d'Afrique en titre avec une victoire de 1-0 contre le Sénégal. Il y a de ça un peu moins de 3 ans. Et l'Algérie, en plus, était championne de la Coupe arabe des pays en battant la Tunisie en prolongation. Ils ont des joueurs exceptionnels. Et détrompez-vous pas, là. Tous les grands joueurs algériens étaient là. Mahrez, Belaïli, Bounejda, le gardien, Brahimi, Attal, ils étaient tous là. Ils ont quand même produit du jeu. OK, il faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Ils ont créé du jeu, mais par contre, pour la finition, ça a été atroce. Contre la Sierra Leone, la définition, elle a été atroce. Ils ont manqué des occasions devant le but qu'ils auraient dû mettre. Contre la Guinée équatoriale, pareil. Atroce. Atroce, mesdames et messieurs. Donc, l'Algérie, qui termine avec moins 4, un point. OK? Un point. Et il y a seulement que l'Éthiopie qui a fait pire avec moins 4. Mais l'Éthiopie, bien sûr, a marqué 2 buts. Et évidemment, il y a nos amis de la Mauritanie également qui, eux, ont encaissé 7 buts et en ont marqué 0. Donc voilà où en est l'Algérie, mesdames et messieurs. Dernier du groupe E. Maintenant, pour le groupe F, on avait 4 équipes. Le Mali, la Gambie, la Tunisie, la Mauritanie. Ils ont terminé dans l'ordre. Mali, premier du groupe, évidemment. En fait, évidemment, c'est quand même une... On peut pas dire que c'est une surprise, là, mais on attendait beaucoup mieux de la Tunisie, ce groupe-là. Donc, Mali, première. 2 victoires, 1 match nul. Ils ont fait match nul avec la Gambie et ils ont battu la Mauritanie. Ils ont battu la Tunisie, donc 7 points. Deuxième, Gambie, 7 points parce qu'ils ont battu la Tunisie et la Mauritanie fait match nul avec la Gambie. Donc, invaincu quand même, ce qui est quand même excellent. Troisième, Tunisie. Une performance médiocre quand même avec une victoire, 2 défaites. 2 défaites contre la Gambie et contre le Mali. La victoire, c'est contre la Mauritanie avec 4 buts à 0. Et Mauritanie, dernière du groupe avec 0 but marqué, 7 buts encaissés. Donc, 0 points, évidemment. Donc, maintenant, ça nous donne des huitièmes de finale très intéressants. La Tunisie qui est qualifiée malgré, évidemment, leur performance plus qu'ordinaire. Ils avaient quand même eu 12 joueurs affectés avec le COVID avant le match contre la Gambie. Donc, ça l'a sans doute influencé. Notamment, évidemment, Kazri qui était blessé, qui a eu le COVID, évidemment. Donc, il n'a pas pu jouer. Marloul, qui est le latéral important de la Tunisie, n'a pas pu jouer également. Donc, il y a eu d'autres joueurs importants aussi qui ont manqué ce match-là contre la Gambie. Maintenant, les huitièmes de finale, ça commence quand? Ça commence très bientôt. On parle de dimanche le 23 janvier. Donc, Burkina Faso, Gabon, Nigeria, Tunisie. Ça va être chaud. Lundi le 24 janvier, on a Guinée contre la Gambie. Le Cameroun contre les Comores qui, à leur première participation ever à une Coupe d'Afrique des Nations, se sont qualifiés en étant un des meilleurs troisièmes avec un scénario rocambolesque, mais ils se sont qualifiés. Donc, félicitations. Et les Comores, c'est une toute petite île là, à côté de l'Afrique, à l'est de l'Afrique. Donc ça, c'est lundi le 24 janvier. Mardi le 25 janvier, on a Sénégal-Cap-Vert. Ça va être un bon match à 5h. J'ai l'impression qu'il va y avoir des buts dans ce match-là. Je ne sais pas pourquoi, c'est un feeling que j'ai. Maroc-Malawi, 20h le 25 janvier, mardi. D'ailleurs, le Maroc, c'est un très bon tirage pour eux. Ils devraient être en mesure de battre le Malawi. Et le 26 janvier, on a le plus gros clash après... Même, je vous dirais, avant Tunisie-Nigeria, on parle de Côte d'Ivoire-Égypte. Et on va avoir Guinée-Équatoriale contre le Mali. Donc voilà, c'est le plan de match pour la Coupe d'Afrique des Nations et pour les huitièmes de finale. Maintenant, pour les meilleurs buteurs, on parle de Vincent Aboubakar avec 5 buts marqués en 3 matchs, Wabi Kazri 2 buts en 2 matchs, Nicolas Pepe 2 buts, Gabaldino Mango de la, du Malawi 2 buts, Mogni des Comores 2 buts, Boufal 2 buts, Koto Ekambi du Cameroun 2 buts, Alevina du Gabon 2 buts, Ibrahima Kone du Mali 2 buts. Donc voilà.
Ensemble.
retour à Soccer Love sur les ondes de CFAC 88,3 FM, la radio de l'Université de Sherbrooke. On vient d'entendre la chanson « Ramener la coupe à la maison » de VG Dream, évidemment qui est un artiste très connu parce que c'est lui qui a fait la chanson de la victoire de la Coupe du Monde 2018 que la France a rapporté contre la Croatie 4-2 si je ne me trompe pas. Donc voilà, écoutez, on est vers la fin de cette émission-là, mais il nous reste quand même quelque chose. Il nous reste à parler des transferts, il nous reste à vous parler évidemment des matchs à venir. Et cette semaine, on fait un petit zoom sur la Premier League. La Premier League à Soccer Love, c'est tout de suite. Quand on parle de la Premier League, évidemment, on parle, c'est-à-dire du meilleur championnat au monde, selon beaucoup de personnes. Le championnat avec les meilleurs joueurs, le championnat avec, pas nécessairement le plus beau football, mais avec le plus de passion, le championnat où est-ce que les joueurs les plus dispendieux jouent, le championnat. Bref, c'est le pays qui a inventé le football dans les îles britanniques, voilà. Et cette année, évidemment, la compétition est féroce, mais on sait déjà que probablement Manchester City va être champion parce qu'ils sont premiers avec 22 matchs joués, 56 points, et les deuxièmes sont Liverpool avec 21 matchs joués et 45 points. Donc, si on considère qu'ils gagnent leur match en main, ça leur ferait 48 points, donc ça leur ferait quand même 8 points de différence avec Manchester City. Troisième, Chelsea, 23 matchs joués, 44 points. Quatrième, 22 matchs joués, 37 points pour West Ham. Cinquième, Tottenham, 36 points. Sixième, Arsenal, 35 points. Septième, Manchester United, 35 points. Donc évidemment, West Ham, quatrième. Je ne sais pas s'ils vont pouvoir garder la place, mais ça s'en va vers un champion, là, très probablement, de Manchester City, Liverpool et Chelsea, qui seront très probablement assurés des trois premières places. Après, pour la quatrième place, ça va se jouer entre West Ham, Tottenham, Arsenal, Manchester United et pourquoi pas peut-être Wolverhampton qui ont 31 points et qui sont 8e. Du côté de la relégation, à l'heure actuelle, on a Burnley qui est bon dernier avec 17 matchs joués. Il faut comprendre qu'en Premier League à l'heure actuelle, là, on a des équipes qui ont joué 17 matchs. Ça, c'est l'équipe qui a joué le moins de matchs, c'est Burnley. Et l'équipe qui a joué le plus de matchs, c'est Chelsea avec 23. Donc, il y a une différence de 6 matchs joués parce qu'évidemment, il y a beaucoup de matchs qui ont été annulés à cause du COVID en Angleterre. Pour ceux qui nous écoutent ici et qui ne connaissent pas grand-chose au soccer, là, je vais vous apprendre quelque chose qui ne concerne pas que le soccer. C'est-à-dire qu'en Angleterre, les matchs où est-ce que des joueurs ont testé positif pour le COVID ont été annulés et reportés. Mais par contre, les stades ont toujours été pleins. Il n'y a pas eu de huis clos en Angleterre pour des matchs de foot à date. D'accord? Il y a eu des huis clos dans d'autres pays comme en Allemagne, etc., etc. Mais en Angleterre, il n'y en a pas eu. Mais il y a eu beaucoup de matchs annulés par contre. Donc ça, c'est une façon. Évidemment, après ça, vous jugerez par vous-même si c'est la bonne idée ou pas. Moi, je ne suis pas là pour parler politique. Évidemment, je suis là pour parler foot. Donc voilà. Maintenant, Burnley, ses derniers 17 matchs joués avec 11 points seulement. 19e, Newcastle United, j'en ai parlé la semaine dernière, 20 matchs joués, 12 points. Et d'ailleurs, la semaine dernière, ils avaient fait match nul 1-1 avec Watford, où est-ce que Watford avait égalisé dans les dernières minutes du jeu. Donc, c'est 2 points super importants qu'ils ont perdus. 18e, Norwich, 21 matchs joués, donc 4 de plus que le dernier. Avec seulement 2 points de différence, c'est un de plus que Newcastle United avec 1 point de différence, 13 points. 17e, Watford, 19 matchs joués, 14 points. Donc ces 4 équipes-là, il y en a très probablement 3 de ces 4-là qui vont se faire reléguer parce qu'après ça, on a Everton avec 19 matchs joués, 19 points, c'est 5 points de différence et 2 matchs de moins joués que Norwich. Donc, la situation est catastrophique. Évidemment, on peut penser que Newcastle, avec ses nouvelles recrues, Kieran Trippier, Chris Wood, tout ça, ils vont pouvoir s'en sortir. Mais Norwich, c'est tout simplement catastrophique parce que leur buteur finlandais, Timo Pukki, qui est fidèle au club, doit vraiment commencer à penser à faire peut-être quelque chose d'autre de sa carrière, d'aller dans un club où est-ce que peut-être il pourra gagner des titres en première division, parce que pour Norwich, ils ne gagneront jamais un titre de première division jusqu'à temps que j'anime cette émission, c'est certain. Ça sent directement la Ligue 2, la Coca-Cola Championship. En fait, elle ne s'appelle plus comme ça, ça s'appelle Championship, je crois. Juste pour vous donner un aperçu là, de nos amis de Norwich, ils ont été relégués en 1974-75. OK? Pardon, 73, 74, 80, 81 et 84, 85. Ensuite, ils ont été relégués en 95, en 2005, en 2009, en 2014, en 2016 et en 2020. Et ils ont été promus en Premier League de la deuxième division anglaise en 2004, en 2010, en 2011, en 2015, en 2019, en 2021. Donc, c'est une équipe qui fait beaucoup l'ascenseur. Vous me direz, c'est ça l'objectif pour une petite équipe comme ça, c'est de rester le plus longtemps possible en Premier League. Mais ça fait quelques saisons où est-ce qu'ils montent en Premier League et ils descendent tout de suite après. Donc, ça reste à... Il faut vraiment améliorer ça du côté de Norwich parce qu'ils ont une très bonne... Des très bons supporters. D'ailleurs, ils ont des belles couleurs, jaune et vert. On les appelle les Canaries. Mais en termes de football, c'est pas fameux. Et surtout, je vous donne leur numéro. Là. En 21 matchs, ils ont marqué seulement 10 buts. Ça veut dire qu'ils marquent un but moins qu'une fois à tous les deux matchs. Puis ils ont accordé 45 buts en 21 matchs, qui est plus que 2 buts chaque match. Évidemment, c'est la pire défense de la Premier League. La pire. La pire, 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 pire. D'accord? Et si on regarde ça après ça, la pire, là, c'est Newcastle avec 43 buts accordés. Concernant, c'est la pire attaque puis c'est la pire défense en même temps. La meilleure attaque, évidemment, c'est Manchester City avec 54 buts marqués en 22 matchs. Et la meilleure défense de la Ligue anglaise, c'est Manchester City avec seulement 13 buts accordés en 22 matchs. Mention spéciale aussi à Wolverhampton qui quand même en 20 matchs a seulement accordé 15 buts, ce qui est quand même excellent. Du côté des meilleurs buteurs de la Ligue anglaise, évidemment, on a Mohamed Salah avec un beau total de 16 buts et c'est le deuxième meilleur passeur de la Ligue également avec 9 passes décisives. Et le meilleur passeur de la Ligue anglaise, c'est tout simplement Trent Alexander-Arnold, le défenseur latéral du côté de Liverpool avec 10. Mais, et en plus, il faut le fait important à mentionner, là, il y a beaucoup d'équipes de la Ligue anglaise, comme dans tous les grands championnats, qui ont perdu certains joueurs qui sont allés jouer la Coupe d'Afrique des Nations. On pense à Mahrez avec Manchester City, du côté de Liverpool, Sadio Mané, Naby Keita et Mohamed Salah. Ça, c'est 3 titulaires indiscutables de l'équipe, là, ou presque. Ils sont partis du côté du Cameroun, Yaoundé, Limbé, peu importe, là, ils sont allés faire la Coupe d'Afrique des Nations. Du côté de la Ligue anglaise, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire les prochains matchs, on a Everton, Aston Villa, ça c'est demain. On a Manchester United, West Ham United, on a Leeds United, Newcastle United, Brentford, Wolverhampton. Brentford, ça c'est une équipe qui se bat énormément pour rester du côté de la Ligue anglaise. Cette année, ils ont fait un bon début de saison, ils devraient y rester. Mais par contre, c'est une équipe que quand je la vois jouer souvent, je ne l'ai pas vu jouer souvent, c'est vrai. Je l'ai vu jouer contre Manchester City, c'était un match là où est-ce qu'à chaque coup franc qu'ils avaient, peu importe le coup franc était où, ils envoyaient tous les joueurs en avant et ils jouaient vraiment long ball en espérant marquer un but. C'était vraiment ennuyant à voir jouer, c'était vraiment désagréable, c'était vraiment un foot calculé, c'était vraiment désagréable à voir jouer. Donc j'espère qu'ils vont pouvoir améliorer un peu leur niveau de jeu parce que c'était vraiment calculé, là. C'était très calculé. Southampton-Manchester City, ça c'est le match de l'après-midi samedi, donc demain. Et dimanche matin, on a Crystal Palace qui reçoit Liverpool, on a Arsenal qui reçoit Burnley, on a Leicester City qui reçoit Brighton and Hove, et on a Chelsea qui reçoit Tottenham dans un derby londonien, parce que évidemment c'est un derby londonien dont il s'agit. Donc voilà, ça c'est du côté de la Ligue anglaise, qu'est-ce qui se passe, parce que comme je l'ai dit, à chaque semaine... Comme je vous dis, chaque semaine, j'essaie de vous présenter un championnat, évidemment, top 5 européen, donc que ce soit l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, la France, l'Espagne, même Portugal, ça va arriver. Parce que je ne veux pas passer toute l'émission à parler juste des grands championnats européens, je veux parler du soccer mondial, asiatique, africain, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Amérique centrale et Caraïbes, Océanie, tout ça. Donc c'est pour ça, l'Europe c'est bien, mais il n'y a pas que ça. Et les médias mainstream d'habitude ne parlent que ça. D'ailleurs, si vous pensez par exemple à RDS, je ne sais même pas s'ils savent c'est quoi la Ligue mexicaine ou la Coupe d'Afrique. Je ne sais même pas si quand il va y avoir la finale de la Coupe d'Afrique, là, Coupe d'Afrique des Nations, si RDS va mentionner qu'il y a un vainqueur continental. Je penserais pas. Même TSN, Sportsnet, tout ça, ça m'étonnerait beaucoup. Pour terminer sur l'Angleterre, d'ailleurs, mesdames et messieurs, je vais juste vous donner les matchs de la FA Cup, qui est une coupe très importante en Angleterre. C'est la Football Association Cup. C'est une compétition très prestigieuse pour gagner la coupe. Donc, Manchester United, Middlesbrough. On est en février, là, on parle du 4 février. Chelsea reçoit Plymouth Argyle. On a également... West Ham qui se déplace du côté de Kidderminster. Manchester City reçoit Fulham. Everton reçoit Brentford. Wolverhampton reçoit Norwich City. Southampton, Coventry City. Crystal Palace, Hartlepool United. Stoke City reçoit Wigan Athletic. Peterborough United reçoit Queen's Park Rangers. Huddersfield Town reçoit Barnsley. Cambridge United reçoit Luton Town. Tottenham reçoit Brighton and Hove Albion. Liverpool reçoit Cardiff City. Nottingham Forest reçoit Leicester City. Et Bournemouth reçoit Boreham Wood. Il faut comprendre que quand il y a un tirage là, de la Coupe anglaise de la FA Cup, les gens regardent. C'est comme une tradition. Si jamais vous aimez le foot, je vous recommande fortement d'aller voir le film The Football Factory. C'est un film qui parle des hooligans du soccer anglais, mais c'est un film qui vous donne envie d'aller en Angleterre juste pour voir le match, pour respirer la culture anglaise du soccer, du foot. Donc, vous invite à regarder ce film-là si jamais ça vous intéresse, là, The Football Factory. Et évidemment, je vous recommande évidemment le reportage sur Netflix sur la Squadra Azzurra, hein? Sur l'équipe d'Italie championne d'Europe. On est un peu amené à l'intérieur du groupe voir comment c'était. C'était vraiment très intéressant. Je vous la recommande très fortement, cette série. Donc voilà, c'était une petite présentation très brève du championnat anglais à Soccer Love. Voilà, donc maintenant, on va terminer l'émission avec les matchs à venir pour cette fin de semaine et même la semaine prochaine parce qu'on en a des très intéressants jeudi prochain. Comme vous savez, l'émission est vendredi prochain, donc c'est avant la prochaine émission. Donc, on commence samedi, le 22 janvier. On a Manchester United, West Ham United, c'est du côté de l'Angleterre. Italie, Lazio, Atalanta. On a Lens qui reçoit Marseille. L'Atlético Madrid reçoit Valence. Et on a Sporting Club Portugal qui reçoit Sporting Braga. Le 23 janvier, dimanche, on reçoit Standard Liège contre Club Bruges. PSV Eindhoven, Ajax Amsterdam, c'est le plus gros match des Pays-Bas, mesdames et messieurs. Le Real Madrid reçoit Elche et Chelsea reçoit Tottenham, Hertha Berlin, Bayern Munich et Pumas Tigres. Ça, c'est deux des meilleurs clubs. J'ai toujours le mot en espagnol, aficion. C'est les deux meilleurs clubs pour l'ambiance, pour les supporters. C'est Pumas et Tigres. Pumas qui est l'équipe de Mexico City, Tigres de Monterrey. On a Milan, Juventus, ça c'est dimanche 14h45, et Deportivo Alavés reçoit nul autre que le FC Barcelone. Après ça, ça nous amène au 27 janvier. Les matchs pour les qualifications de Coupe du Monde sont de retour. On commence avec l'Asie. Australie reçoit le Vietnam. Japon reçoit la Chine. Liban reçoit la Corée du Sud. L'Iran reçoit l'Irak. Les Émirats Arabes Unis reçoivent la Syrie. Du côté de l'Amérique latine, l'Amérique du Sud, l'Équateur reçoit le Brésil. Le Paraguay reçoit l'Uruguay. Paraguay-Uruguay. Et ensuite, on a le Chili reçoit l'Argentine. Et du côté de notre conférence à nous, notre zone, Jamaïque reçoit le Mexique, les États-Unis reçoivent le El Salvador, Honduras reçoit le Canada. On va en parler d'ailleurs à l'émission prochaine, la semaine prochaine, je vous le promets, 28 janvier, là, soyez là, on va en parler. Et Costa Rica reçoit le Panama. Donc voilà, chers auditeurs, chers auditrices, merci d'avoir été là à Soccer Love. Si vous avez des commentaires, des suggestions, bien vous envoyez un message à soccerlovecfac@commercialgmail.com. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous, Wissam Bensta à l'antenne. Je vous souhaite une excellente semaine. Stay safe et profitez de la vie. Essayez de profiter du bon soccer, du bon foot qu'on a à travers le monde et la planète. Au revoir.